Salut, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et voici le retour des coachs en cause. Le principe est simple, je fais appel à quelques coachs, on choisit un sujet bien déterminé et nous échangeons sur nos pratiques, sur nos visions, pour échanger, pour partager nos expériences. Et dans ce sujet, nous avons choisi d'aborder le sujet des bases d'entraînement. Sur quelle base nous appuyons-nous pour confier les séances? Est-ce que nous appuyons sur la fréquence cardiaque, sur la VMA, sur le ressenti ou sur d'autres paramètres? Vous allez entendre un sujet hyper intéressant puisqu'il y aura des confrontations d'idées et de points de vue dans cet épisode. Tout d'abord, j'ai souhaité faire appel à Véronique Billat. Qui ne connaît pas Véronique Billat, qui est une scientifique de renom qui évolue dans le milieu de la course à pied du trail running depuis de très nombreuses années. Elle a d'ailleurs remporté la première édition de Circinal. Et donc, on va échanger avec Véronique sur ce sujet qui lui tient à cœur. J'ai fait appel également à Simon Gosselin, cofondateur du Team Silas Matrix et coach notamment d'athlètes comme Rémi Bonnet, Baptiste Chassagne et tant d'autres. Et puis, j'ai également demandé à un de mes associés, Olivier Jean, de participer à cet échange pour nous faire profiter de son expérience en coaching. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Véronique, Simon et Olivier. On écoute. Je suis avec Véronique Billat, Simon Gosselin et Olivier Jean. Bonjour à tous les trois. Je vous remercie énormément de partager un petit peu de votre expérience et votre temps au micro du LTP. Bonjour Véronique, première fois pour Véronique Billat au micro du Let's Ride Podcast. C'est un véritable honneur de vous recevoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je pense qu'ils sont pas nombreux à pas vous connaître quand même.
Je dois être très bien, alors tu me fais peur.
Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais je le suis quand même. Effectivement, il y a 42 ans, je gagnais Circinal. J'avais 20 ans, donc j'en ai 62. Voilà. Et j'ai commencé à courir, en fait. C'était un peu le début. Je commençais à courir à 17 ans seulement, mais comme j'étais une Kenyane qui allait à l'école en vélo, depuis l'âge de 11 ans, j'habite en altitude, enfin en dénivelé, quoi. Je faisais 600 mètres de dénivelé tous les jours en vélo, parce que j'habitais au-dessus de Grenoble. Il fallait descendre. Grenoble, c'est très plat. Voilà. Donc j'ai pris de l'endurance sans m'en apercevoir et j'ai été détectée par le prof de gym. Et voilà, après j'ai fait des crosses. J'ai fait une championne de France de cross espoir. Derrière Annette Sergent, à l'époque, qui a été championne du monde. J'ai gagné Circinal, Sierra Montana, un peu par hasard, en faisant mon mémoire de master de licence sur l'émergence des courses hors stade. Mmh. C'était mon mémoire de sociologie en STAPS. Voilà, j'étais en STAPS. Et finalement, je voulais être prof de gym. Et puis finalement, l'entraînement m'a intéressée. J'ai voulu comprendre comment ça se faisait que finalement, je m'entraînais différemment des autres. Beaucoup de vélo, beaucoup en nature. Je faisais du ski de fond aussi. J'étais en équipe de France universitaire. En faisant du cross-training, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus efficace pour courir bien. Et j'ai voulu creuser. Donc, j'ai passé tous les brevets d'État jusqu'au 3e degré. Et je n'avais toujours pas mes réponses. Donc, finalement, j'ai fait un master. Et au lieu d'aller faire prof de gym, j'ai fait un professeur à l'université. Donc, j'ai fait une thèse. Et à 28 ans, j'étais maître de conférence. Et après, bon, voilà, je continuais. J'ai créé un laboratoire INSERM, le premier sur la science du sport. Mmh. J'ai bien fait du sport. Et puis, pour finir, à 50 balais, j'ai créé une entreprise, une start-up qui s'appelle Billat Training pour financer les bourses de mes élèves, de mes étudiants en thèse et de mes étudiants en master, puisque moi, j'avais bénéficié des bourses et il n'y en avait plus. Voilà. Pour le sport, il n'y en avait plus. Il n'y en avait que pour la biologie fondamentale ou l'informatique, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai créé une entreprise. Voilà, c'est un peu l'histoire finalement.
Très bien.
Et je suis toujours en quête de trouver l'entraînement sur mesure pour chacun. Donc, je fais de la haute culture. Et pour ça, j'essaye de trouver des déterminants à chacun, les mesures qu'il faut prendre pour trouver le costume idéal. Voilà.
T'es parfait.
Et avec le moins d'entraînement possible.
Très bien. On va en parler, on va rentrer dans le détail juste après. Merci pour la présentation, Véronique. C'était impeccable. Salut, Simon. Je crois que... Alors, toi, tu étais intervenu quelques minutes au micro du LTP. Je crois que c'était après les championnats de France. On s'était entretenu ensemble. Déjà, je suis très content de te recevoir au micro du LTP. Je te remercie du temps que tu nous accordes. Comment vas-tu? Et puis, pareil, même exercice. Petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas.
Déjà, merci pour l'accueil et et pour l'échange à venir à vous trois. Ensuite, du coup, ouais, moi, c'est Simon Gosselin, je suis à peine plus jeune que Véronique. Alors, moi, j'ai 28 ans, je fais pas mal je fais du sport depuis que je suis jeune, mais globalement, moi, j'ai fait un master entraînement et optimisation de la performance sportive à Besançon, que j'ai fini, il y a 6, je dirais, il y a 6 ans. Et parce que de base, je venais du vélo et bon, c'était assez reconnu là-bas. Et sinon, moi, depuis, du coup, j'ai monté le Team Cidas Matrix il y a 6 ans. Donc, au début, je bossais exclusivement pour le team. Et là, maintenant, je suis un peu plus indépendant et que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète. Et du coup, voilà, moi, enfin, pareil, je suis dans l'idée, et ce qui me passionne, c'est vraiment d'avoir des suivis assez proches avec les athlètes. Donc, moi, je me suis fixé, au maximum à 12 athlètes. Donc, en ce moment,
La
j'entraîne 12
haute couture aussi, quoi.
athlètes. C'est de la haute couture, mais du moins, c'est, ouais, c'est histoire d'avoir un suivi un peu proche, individualisé, pouvoir passer du temps pour chacun et voilà.
Alors, pour ceux qui savent pas, tu es quand même le coach de Rémi Bonnet ou de Baptiste Ellenreich. Donc, effectivement, de sacrés athlètes. Tu pourras aussi en reparler dans l'épisode si tu le souhaites. Merci pour ta présentation. Olivier, comment vas-tu? Ben, encore une fois, au micro du LTP. Voilà. Il me semble que tu as une. Bon, je vais te laisser te présenter rapidement, mais il me semble que tu as déjà croisé Véronique. C'est ça ce que tu disais en off tout à l'heure.
Ouais, exactement. Bah, je vais commencer par ça. Moi, c'est un grand honneur aujourd'hui de pouvoir faire ce podcast avec Véronique. Effectivement, nos routes se sont croisées il y a quelques années. Ça avait été une super expérience. J'avais fait quelques tests, notamment dans son laboratoire d'Evry. Voilà, donc ça avait été super. Elle nous avait accompagnés sur une grosse course également. Donc voilà, très heureux de pouvoir la recroiser aujourd'hui. Donc moi, Olivier, ouais, j'ai 54 ans. Je suis coach fondateur chez Expert Sport Coaching. J'ai une formation STAPS à l'origine et au niveau sportif, bah, j'ai commencé par le sprint. Et puis petit à petit, j'ai bougé sur de l'ultra trail. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis passé du 100 mètres au 100 000 mètres. Enfin, je ne sais pas vraiment calculer, mais voilà. Et puis ben, moi, ce qui me passionne, c'est tout ce qui est technique d'entraînement, la physio, tout ce qui permet d'optimiser la performance des coureurs. Voilà. Et comme tu disais, Nico, on a quelques athlètes. À coacher chez Expert Sport. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ces conversations ça nous permet aussi de nous améliorer, hein, au jour le jour. Donc, c'est top.
Super. Parfait, Olivier. Merci beaucoup. Merci d'être là. Donc, pourquoi cet épisode? Alors, c'est un sujet qui est souvent évoqué. On nous pose souvent la question, nous, en tant que coach, pourquoi travailler sur une base d'intensité, de vitesse, de fréquence cardiaque, quel est le meilleur choix, comment faire, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on confronte un peu nos opinions, nos avis, nos manières de procéder dans le cadre de l'accompagnement sportif. Déjà, Véronique, j'aimerais bien que, si possible, vous listiez, si vous avez la possibilité, moi j'en ai listé quatre principales, on va dire, les différentes bases qui permettent de juger ou de quantifier un effort. Alors moi j'ai pensé, vous me dites si je me trompe, mais j'ai pensé à la VMA, donc la vitesse maximale aérobie, j'ai pensé à la fréquence cardiaque, j'ai pensé aux sensations, et j'ai pensé aussi éventuellement à la VO2 max. Est-ce que c'est les différentes bases qui permettent de juger ou de quantifier un effort?
Oui, alors il y a VO2 max, c'est des mesures, enfin, c'est issu de, je voulais dire, exprimer une intensité d'effort en pourcentage de VO2 max. Bon, c'est souvent lié à VMA, mais bon, si je devais tout reprendre, c'est bon, là, c'est les quatre principaux. Bon, il faut déjà savoir que VMA, c'est une vitesse particulière qui est un artefact de protocole. C'est une vitesse que l'on obtient quand on fait un test de 20 méval. Hein. Par définition, on incrémente la vitesse par palier de 2 à 4 minutes. On obtient une vitesse à laquelle on peut plus, on peut pas aller au-delà de cette vitesse, ou tout au moins on peut y aller si on a beaucoup de capacité lactique, anaérobie. C'est la plus petite vitesse qui sollicite le début de plateau de VO2 au maximum, donc VO2 max. C'est la vitesse qui est associée à VO2 max. Donc, c'est pour ça que dans ce que tu as listé, on a, je dirais, une vitesse, une donnée de fréquence cardiaque, une donnée neurophysiologique et une donnée donc fréquence cardiaque, c'est-à-dire physiologique, et une autre donnée physiologique. Donc, ce n'est pas du même registre. Si on veut calibrer une séance d'entraînement, déjà, il faut choisir son cadre. C'est-à-dire, si on commence à mélanger tout, effectivement, VMA, c'est vraiment, je le souligne, une vitesse qu'il faudrait oublier parce que ça fait 42 ans, 40 ans, je connais très bien Luc Léger, Cazorla, etc. C'est les années 80, quoi. Je sais qu'elles sont, c'est un peu la mode des années 80, mais bon, à un moment donné, c'est moi qui le dis, qui ai 62 ans, voilà. Il y a encore la vitesse au seuil, la vitesse au seuil ventilatoire, V1, V2, la vitesse au seuil lactique. Et quel seuil lactique? Il y a la vitesse maximum lactal steady state. Il y a la vitesse critique. Hein. Il y a la vitesse sur semi-marathon, la vitesse marathon. Je veux dire que la vitesse sur marathon, la vitesse record sur les distances de course qu'on a, elles sont aussi valables que la VMA. Quoi. Mmh. La VMA, ça ne veut rien dire du tout. Sauf si on la mesure vraiment avec un analyseur d'oxygène, qu'on regarde s'il y a un plateau, sinon on parle de VPIC. Non, je pense que le paradigme, les repères, il faut vraiment les caler sérieusement une fois pour toutes. Il faut qu'on s'accorde, si ça peut être l'occasion, ce genre de podcast, de le faire.
Donc l'idée.
Les gens sont perdus, là. Et en plus, les montres qu'on achète, les cartes du GPS, comme ils n'arrivent plus à se concurrencer en termes de qualité de GPS, etc. Bon, j'ai utilisé les Polar il y a 30 ans. Maintenant, tout le monde est capable de sortir un bon GPS, un bon baromètre et une bonne fréquence cardiaque. Enfin, bon, pas toujours au poignet, mais au moins à la ceinture. Même les temps d'appui. Les ingénieurs ne savent plus quoi faire. Alors, ils font des combinaisons de paramètres, ils sortent des index, des indices, des machins. Maintenant, on en est même à dire qu'il faut tenir une certaine vitesse de cadence de course, 180 pas par minute. Chacun trouve son truc, soyons simples.
D'accord.
Moi, j'ai trouvé le moyen d'être très simple, mais c'est un long chemin. Quoi. Donc, dans ce que tu as dit, je retiens la sensation. Ouais.
La sensation, ok.
Allez, choix...
Non, très bien, très bien. C'est clair. Après, on va préciser tout ça, Véronique, de toute manière, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Donc, choix numéro 4 pour Véronique, la sensation. Simon, de ton côté, alors, explique-nous un petit peu comment tu listerais les différents... Alors là, encore une fois, ça rentrait trop dans le détail, mais de manière un peu générale, quel outil généraux tu utilises pour quantifier une séance d'entraînement pour tes athlètes?
Alors moi, ça va vraiment être au cas par cas, ça va être ultra individuel. Mais effectivement, bon, alors déjà, j'utilise très, 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 très rarement la VMA ou des pourcentages de PMA parce qu'on va dire avec les athlètes que j'utilise maintenant, on a quand même d'autres données qui nous permettent d'être plus précises ou du moins qui me semblent plus logiques. Après, en fait, et j'utilise globalement très peu de pourcentages. Parfois, j'utilise l'AFC, mais souvent, quand j'utilise l'AFC, c'est que les athlètes ont fait des tests physiologique et du coup qu'on a leur valeur de SV1, SV2, etc. Sinon, pour les athlètes de haut niveau, ça me fait moins sens d'utiliser des pourcentages génériques parce que, vu qu'on est sur du cas par cas, c'est difficile de se dire, le seuil il a tel pourcentage pour tout le monde, ce qui est totalement faux.
C'est clair.
Donc, ça, j'utilise pas. Donc, c'est pour ça. Après, je vais utiliser de la sensation. Sur certaines séances, je vais utiliser de l'AFC. Après, de temps en temps, c'est plus rare, mais ça m'arrive d'utiliser de la lactatémie si besoin sur le terrain pour mesurer, que ce soit, pour requantifier. Donc voilà. Après, c'est pas des trucs qui se font au quotidien. Pour moi, au quotidien, c'est la sensation. Et de temps en temps, en fait, il y a des outils qui permettent de mesurer qu'on travaille bien ce qu'on veut. Donc, ça peut être l'AFC, la lactatémie ou encore selon les analyses, par exemple, sur Nolio ou sur, n'importe quelle application derrière, donc de vitesse ascensionnelle, de vitesse à plat. Mais ça a plutôt, en fait, confirmé que l'athlète bosse dans la bonne zone plutôt que l'inverse.
C'est des moyens, des outils qu'on utilise pour vérifier justement si au niveau de la corrélation, si ce qu'on donne correspond à ce qui est restitué. Quoi. Mais il faut, de ton point de vue, il ne faut pas s'en servir de base pour donner le cadre de la séance.
Alors bien, si, mais ça peut dépendre. Enfin, ça va quand même dépendre de l'athlète et avec quel public tu bosses. Enfin, si le but c'est bosser avec un groupe, je pense que c'est super, parce qu'à un moment, c'est super. La sensation peut être aussi très bien, mais on va dire que ça peut être un très bon moyen quand tu bosses avec un groupe de bosser avec des pourcentages de VMA, de FC, etc. Après, au cas par cas, je pense que globalement, je dirais non, même si il y a des il y a des contre-exemples et bon, enfin, moi, j'ai des athlètes qui ont tellement l'habitude de bosser avec ça qu'au final, c'est relié avec leurs sensations. Donc, après tout, si ça marche pour eux, pourquoi pas?
Pour préciser un petit peu de manière un peu générale pour ceux qui sont moins aguerris au sujet, VO2 max, on va dire en gros, globalement, c'est un peu la cylindrée du moteur, hein, les capacités cardio-respiratoires maximales qu'on a. La VMA, c'est l'image en vitesse de cette VO2 max, de cette cylindrée. Sur le plat, exactement. Et puis, les seuils ventilatoires 1 et 2, c'est des zones qui permettent de déterminer les intensités d'aérobie ou d'anaérobie. On rentrera un petit peu dans le détail juste après. Toi, Olivier, de ton côté, ton positionnement déjà un peu général sur qu'est-ce que tu utilises comme... Là, dans une première partie de cet épisode, on reste sur qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour construire une séance.
Ouais. Bah, moi, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Alors, on n'a pas, moi, j'ai pas les mêmes types d'athlètes que peut avoir Simon, hein. Moi, c'est beaucoup du récréatif. Il y a des athlètes débutants aussi. Donc, c'est vrai qu'on a aussi un devoir, une approche aussi assez pédagogique. Donc, je vais utiliser dans un premier temps, je vais expliquer les sensations, à quoi correspondent chacune des sensations. Donc, quelque chose comme l'échelle de bord, par exemple, expliquer aux athlètes, ça peut être intéressant. Après, bon, on est dans le trail, donc c'est clair que tout ce qui est VMA, ça, on va pas utiliser, ça n'a pas trop de sens, enfin, sauf si on faisait des tests vraiment spécifiques et des séances à plat. C'est clair que dans les collines, des allures, surtout pour des publics débutants, ça va être compliqué. Voilà, donc, et bien entendu, on va utiliser, moi j'utilise beaucoup le cardio. Alors, effectivement, je suis d'accord, hein, la précision du cardio sur quelqu'un qui n'a pas fait vraiment les tests en labo ou vraiment les tests très précis, c'est sujet à caution, hein, il peut y avoir des écarts assez importants, mais ça permet quand même, je pense, hein, après bon, je pourrais être contredit, mais ça permet quand même de donner un petit peu quelques bases et de faire ce lien qu'il peut y avoir entre un cardio peut-être et une sensation. Voilà, hein, c'est déjà une première approche avant d'aller peut-être plus loin dans l'exercice et de faire en sorte que au final on soit complètement indépendant de tout ce genre d'outils pour se fier uniquement aux sensations. C'est clair que à partir d'un certain niveau, l'athlète, à la limite, tu lui dis, bon, t'es à combien au cardio là, sur un effort, il va être capable, à 2-3 pulses près, de dire, par rapport à ses sensations, à combien il est. Voilà. Mais avant d'arriver là, il y a pas mal de chemin, donc pas mal de voies à explorer aussi avec ces athlètes.
C'est clair. Véronique, on va commencer par le premier paramètre qui est la VO2 max. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment c'est calculé et est-ce que ce paramètre-là peut être applicable dans le cadre d'entraînement, notamment en trail?
Oui, alors moi je précise que j'ai écrit un bel opus qui s'appelle Révolution Trail, aux éditions de Boc. Je parle beaucoup d'aspect neurophysiologique qui est effectivement déterminé en trail parce que tout est basé sur les sensations. Alors, VO2 max, c'est quelque chose qui s'appelle VO2 max à l'épreuve du temps. En fait, VO2 max, on atteint, j'ai pas mal d'articles là-dessus qui le montrent, du 100 mètres au marathon. Sur un 100 mètres, on est à VO2 max puisqu'en fait, c'est comme tu l'as dit, la cylindrée du moteur thermique. On a un moteur hybride, donc on a une batterie électrique et la couche minimum, le moteur thermique, permet de, sur un 100 mètres, Usain Bolt, il avait une consommation maximale d'oxygène de 68 millilitres minute kilo, digne d'une fille niveau national en cross, c'est-à-dire que la consommation d'oxygène, c'est ce qui permet de resynthétiser la phosphocréatine, de tenir un 100 mètres minimum et les sprinteurs, ils passent 30%. Donc en fait, Olivier Jean, qui est un ancien sprinter, effectivement, travaillait sur VO2 max sans savoir. C'est comme Monsieur Jourdain à la pause. Mais on est à VO2 max. C'est un de mes derniers articles. Tous mes articles sont en ligne sur Bia Training, en haut à droite publication. C'est un bel article qu'on a fait récemment où on montre que sur un 100 mètres, j'avais testé les meilleurs foncés, hein, Christophe Lemaître, etc. On est à VO2 max le tiers du temps. Voilà, autant que sur un 10 000 mètres. On est à 30% de son temps d'effort sur un 10 000 à VO2 max. sur un marathon, on a des incursions à VO2 max pour 5%. Et bien sûr, les courses sont liées le plus souvent, c'est sur 3000 mètres, où là, on est deux tiers du temps à VO2 max. Donc, VO2 max, c'est effectivement le moteur thermique, on peut le pousser au maximum. Le gold standard pour l'atteindre, c'est ce fameux test triangulaire par palier qui date des années 50. À l'origine, ça a été découvert il y a 100 ans. En fait, le centenaire, par un Nobel de physiologie et médecine, Hill, Archibald Vivian Hill, qui, sur son tapis roulant en 1924, s'est amusé lui-même et courait, c'était à Cambridge, il courait à pied, s'était mis à 10 à l'heure, 11 à l'heure, avait des gros paliers de durée assez longue, et à 16, 17 à l'heure, il a senti qu'il mesurait déjà avec des sacs, que cette consommation d'oxygène était limitée. Et après, pour gagner du temps, on a fait des petits paliers incrémentés pour arriver à déterminer ce plateau de VO2 max auquel on a associé la vitesse maximale aérobie. Donc effectivement, la consommation maximale d'oxygène dépend de deux facteurs. Le facteur central cardiaque, donc qui est le produit de la fréquence cardiaque fois, donc il faut apporter de l'oxygène vers les muscles, donc on a une pompe qui va pomper du sang dans lequel il y a effectivement de l'hémoglobine auquel est accroché l'oxygène. Donc l'hémoglobine, c'est en fait un wagon auquel, je dirais, c'est un train de marchandises dans à l'intérieur duquel il y a les molécules d'oxygène, et le sang est éjecté en fonction de la fréquence cardiaque un nombre de fois à la minute, et à un certain volume, qu'on appelle le volume d'éjection systolique, parce que c'est la contraction, à chaque battement, donc ça fait le débit cardiaque, c'est-à-dire que le débit, ben, c'est une pompe, hein, c'est le nombre de fois que la pompe actionne, un certain volume à chaque fois. Et donc, ce facteur-là, c'est le facteur central de VO2 max, c'est le facteur périphérique. Ben, une fois que le sang est arrivé au muscle,
qu'est-ce qu'on en fait ?
Le train est arrivé, il faut qu'il décharge la marchandise. Donc, c'est pour ça que les gens vont en altitude, bon, il y a un facteur enzymatique qui permet de mieux décharger les molécules d'oxygène. Quand on revient tout de suite d'altitude, on a une fenêtre entre 2 et 10 jours. Donc ça, cette décharge de l'oxygène à partir du sang au niveau des muscles, c'est le facteur périphérique qui va dépendre des enzymes oxydatives, de la capacité du muscle à utiliser l'oxygène que le cœur lui a envoyé. Donc si l'oxygène passe artère veine, c'est ce qu'on appelle la différence artério-veineuse, s'il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de décharge, les wagons repartent pleins. C'est un peu bête parce que ça revient au cœur droit, plein d'oxygène. Donc voilà. Donc les deux aspects central et périphérique du VO2 max s'entraînent différemment. En fait, le facteur central de l'amélioration du VO2 max, c'est le volume d'éjection systolique, la capacité du cœur à éjecter un gros volume avec à la fois une fréquence plus rapide. C'est-à-dire, le cœur, il a un super challenge. À un moment donné, il faut qu'il envoie plus rapidement, plus de temps à chaque battement. Voilà. C'est donc un muscle qu'on travaille. Et c'est ce qu'on améliore le plus facilement et le plus rapidement et à tout âge. Je précise bien, parce que moi j'ai entraîné un centenaire, donc à tout âge on peut améliorer son débit cardiaque, et c'est pas le même entraînement que l'entraînement qui va améliorer l'utilisation périphérique de l'oxygène au niveau musculaire, voilà la différence artério-veineuse. Donc ça, c'est deux types d'entraînement différents. Effectivement, sur un marathon, on s'aperçoit que la fréquence cardiaque ne reflète pas du tout la consommation d'oxygène, puisque moi c'est assez cruel. Je demande à des coureurs de porter des analyseurs. D'ailleurs, je fais un appel au peuple. Hein, s'il y en a qui veulent. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit chien qui aboie. J'ai un chien de 2 mois.
Pas de souci.
Vous entendez des aboiements.
On n'a pas trop entendu ça.
Bon, ça va. Je demande à des athlètes, justement. Je suis en train de créer une association qui s'appelle l'Association pour la science de l'entraînement personnalisé, où les gens qui ont envie de faire don de leur corps à la science de leur vivant viennent pour pouvoir porter des analyseurs en course. Et ça nous a permis de publier des beaux articles montrant qu'il y a une dissociation entre la consommation d'oxygène, le débit cardiaque et la fréquence cardiaque, voilà, en marathon. Donc, la fréquence cardiaque sur marathon ne reflète pas la consommation d'oxygène. Voilà. Donc, les repères de fréquence cardiaque sont éminemment dépendants du temps. Et on a oublié le temps parce que tous les modèles de physiologie sont calqués sur ce fameux test avec des petits paliers. Mmh. Quand on laisse faire le temps, notamment la notion de diastab maximum du lactate, j'en ai fait ma thèse il y a 40 ans, le temps fait que ce qu'on croyait être au seuil, quand on laisse faire le temps, c'est pas ça. Il y a du recyclage, il y a… Voilà. Donc,
En gros, est-ce que
le VO2 max, c'est le gold standard d'une amélioration, oui. Mm-hmm. C'est le pilier Et on a plusieurs facteurs limitants de VO2 max en fonction de son niveau, de son âge. Et le premier facteur, là, ça fait plaisir à Olivier, c'est la puissance musculaire, la réserve de puissance musculaire. Donc, je dirais qu'il y a deux clés d'entraînement. C'est travailler sa puissance, sa réserve de puissance jusqu'à Vmax, travailler toute sa gamme et travailler donc du coup sa gamme de puissance et sa gamme afférente de sensations. Donc, les gens associent une gamme de puissance avec une gamme de sensations, mais il y a aussi l'effet du temps.
D'accord. Pas oublier ça. Donc, très bien pour la définition, on va dire, globale de la VO2 max et des moyens qui permettent de l'améliorer.
On pourra aller voir après.
Voilà. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette valeur, donc qui est déterminée en laboratoire, on le précise. Est-ce que cette
valeur laboratoire, moi je ne le fais pas du tout. D'accord. Moi, je n'utilise pas du tout le tapis roulant, et etc. Je fais tout dehors.
D'accord.
Même, je fais 4 fois l'ascension du Mont Blanc pour mesurer la capacité de l'humain à gérer son effort pour rester toujours à un certain pourcentage de VO2 max au fur et à mesure que l'altitude monte. Enfin, je veux dire, non, je ne travaille pas du tout en laboratoire parce que sur un tapis roulant, on ne pousse pas. Et le temps d'appui, je veux dire, le problème de la course à pied, c'est qu'il faut impulser. Quoi. On a 100 millisecondes pour envoyer 3 fois le poids de son corps en l'air. Et le facteur limitant de VO2 max essentiel, c'est effectivement la puissance musculaire.
Donc, on peut dire qu'en gros, faire un test de VO2 max sur tapis, c'est déjà un peu faussé, puisque par le système mécanique qui est engendré par le tapis, ça fausse un peu la donne.
Bah ouais, parce qu'il y a les rois du tapis, mes collègues le savent bien.
Les rois du tapis.
Si on a un peu d'équilibre, on n'a pas besoin de pousser. Si on pistonne, on court en piston, mais qu'on arrive à être équilibré en tapis, la course à pied, faut impulser. Hein. Il faut avoir un temps d'appui au sol très court. On a fait des mesures, des tests sur le coût énergétique au cours du marathon qui est complètement corrélé au temps d'appui au sol qui augmente énormément une fois et demie quand on arrive au mur, au 26e kilomètre. Le temps d'appui au sol, on rebondit plus. On n'a plus assez de rigidité musculaire et de force musculaire pour s'envoyer en l'air un temps très court. Et donc, on s'écrase au sol, on pistonne, et le coût énergétique est multiplié par 2 quand on mesure la consommation d'oxygène par mètre et par kilo. C'est atroce. Donc, on n'a plus de glycogène, on a plus de renvoi élastique musculaire. Mm-hmm. Donc, on a un coût énergétique qui augmente. Et les sensations qui passent le plus de 15 systématiquement. Voilà. Et on a une réserve d'entropie qui chute. Voilà. L'entropie, c'est la prise d'information du corps, variation de vitesse, nous donne une information, c'est le théorème de Shannon, et on a une perte de variation de vitesse, on perd d'information, et là on se met à subir, on se met en mode automatique, comme disent certains de la tête, et on dépose le cerveau, et on attend que ça se passe. Voilà, il y a 10 km de trop sur le marathon, physiologiquement. Alors là, on commence à mesurer ce qui se passe dans le cerveau, on a l'électroencéphalogramme maintenant, bonne nouvelle, on arrive à le mesurer en courant. Donc, on va bientôt passer, je pourrais vous parler de ça, à la fête de la science, on fait une grande première. On mesure le EEG au cours d'un marathon chez les marathoniens. Voilà. Donc, on va comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui court. Parce qu'à un moment donné, on lâche mentalement. Mmh. Les ondes alpha chutent et on n'est plus mobilisé au niveau cérébral. Okay. Voilà.
Pour en revenir à la partie VO2 max, Simon, toi, ton côté, c'est quelque chose que tu utilises dans le cadre de tes suivis sportifs? Est-ce que tu fais des tests physio et puis c'est une base qui peut te servir dans certains cas comme un outil qui te permet de déterminer un petit peu l'effort et la question indirecte aussi, c'est est-ce que c'est applicable dans des conditions d'entraînement terrain, quoi?
Alors, nous, là, ça fait pas mal de temps qu'on bosse avec Jonas Foro, là, de Promanon, qui bosse au CNSM pour nos tests. Nous, pareil, on les fait en extérieur. Alors, la valeur pure de VO2, je t'avoue que je la regarde, mais alors, non, elle va pas spécialement influencer l'entraînement de mes athlètes. À force, oui, il y a des corrélations avec la performance, mais alors, mais pas que.
Puis on se rend compte aussi, je te coupe, mais qu'il y a si on fait des tests proches, on a des différences assez importantes entre les valeurs, quoi. Nous, on a remarqué
ouais,
ça.
Ouais, c'est clair. Enfin, on peut vite avoir des différences avec des valeurs, etc. Moi, enfin, je m'en sers surtout pour avoir des seuils, pour avoir, c'est toujours intéressant de voir la corrélation. Enfin, on les fait souvent dehors en boss entre, du coup, la vitesse finale ascensionnelle et la VO2 pour voir un peu le rendement, comment il est. Mais globalement, ouais, il y a toujours des points à ressortir, mais la valeur de VO2 max, limite, c'est presque que je vais le moins m'en servir pour entraîner mes athlètes. Et En fait, c'est ultra intéressant, tous les points ultra scientifiques, etc. Mais moi, j'essaie d'être vachement terre à terre sur qu'est-ce qu'il y a en athlète le plus performant. Et oui, bien sûr, je serais content si au test suivant, il a gagné 3 points de VO2. Mais globalement, je préfère qu'il ait gagné 3 minutes à Sierzinal ou 1 heure à l'UTMB.
Très clair, très clair. Olivier, toi, ton côté, alors nous, avec nous, c'est pareil, hein, on fait faire des tests physiologiques en laboratoire, et puis on constate aussi que bah, la VO2, elle varie de manière étonnante un petit peu. Hein, donc on rappelle que c'est quand même là, c'est de la mesure du volume d'oxygène, donc maximal à un certain moment. Toi, c'est quelque chose que tu utilises dans le cadre des entraînements ou c'est une valeur juste comme ça, informative?
On fait des tests sur tapis, hein. Désolé, mais on n'a pas les moyens ni le matériel pour les faire sur le terrain. Non, moi, c'est comme Simon, enfin, la valeur pure, les gens sont contents de l'avoir. Bon, voilà, donc ça leur fait une indication. Mais après, c'est vrai qu'on va plus utiliser les différents seuils comme base de travail ensuite sur le développement des capacités de l'athlète. Voilà. Après, nous, on fait un truc qui est intéressant et je reviens sur ce que disait Véronique sur la force dont disposent les athlètes. Et un truc dont on n'a pas parlé aussi au départ, c'est que la quantification de l'intensité, moi, j'ai commencé à bosser aussi un petit peu sur la puissance. Maintenant, il y a des capteurs qui permettent d'avoir quelque chose qui, on va dire, qui a une certaine fiabilité, au moins dans le temps, hein, c'est-à-dire peut-être pas la valeur absolue, mais voilà. Et on met des capteurs de puissance pendant les tests. Et ensuite, ça permet comme ça d'avoir la puissance développée par l'athlète, ben, SV1, ASV2, y compris ben, à VO2 max. Et ça peut donner des informations intéressantes ensuite sur le terrain si on équipe la personne d'un capteur. Et essentiellement en trail, hein, bien sûr, puisque on va pas pouvoir utiliser les notions de vitesse à ce moment-là. Voilà, donc c'est aussi un outil complémentaire. Alors après, je ne sais pas ce qu'en pensent Véronique et Simon, mais nous, en tout cas, on explore ça. On a quelques athlètes avec qui on travaille comme ça.
Tu constates que ça peut être un outil complémentaire pour quantifier un petit peu les intensités, quoi.
Ouais, moi je pense. À partir du moment où on fait une espèce d'étalonnage en laboratoire, voilà, et qu'on va utiliser le même capteur, etc. Je pense que ça peut avoir du sens. Maintenant, c'est mon avis.
Ouais, très bien, très bien. On va revenir un petit peu de manière un peu générale sur quelles sont les bases qui peuvent nous permettre de quantifier ces intensités d'entraînement. Donc, on a bien compris, si je résume, que la VO2, elle est une utilité que très limitée, puisqu'elle est très peu... elle varie en fonction du type de circonstances dans laquelle on la mesure, donc ça c'est une première chose. Elle est difficilement mesurable dans les entraînements, puisqu'il faut porter un masque pour la mesurer, donc je pense que la VO2, voilà, c'est juste une valeur informative qui a que très peu d'intérêt de mon point de vue. On va passer, si vous voulez bien, à la partie fréquence cardiaque du coup. Véronique, alors, dites-moi.
Une petite parenthèse par rapport à la puissance.
Ouais.
Vous savez comment sont fabriqués les capteurs de puissance? En fait, c'est la vitesse au cube divisée par l'amplitude. Donc, moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Boston, au MIT, il y avait les fondateurs de Stride, et ils cherchaient à valider leur capteur. Mais bon, il faut savoir que c'est exactement, puisque E est égal à un demi de MV2, et l'énergie, c'est ça, un demi de MV2, l'énergie cinétique, et la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, sachant que la vitesse est fréquence amplitude, on revient à une équation de base que la puissance, c'est la vitesse au cube divisée par l'amplitude. Donc, finalement, on tourne en rond. C'est, sachant que la puissance dépend au cube de la vitesse, avec votre vitesse, vous avez tout, quoi. Après, c'est ce que je disais, les gens, ils inventent des trucs, des capteurs, des trucs, mais finalement, c'est des équations de base de mécanique qu'on a appris au bahut, quoi. Donc, voilà, c'est... Donc, avec votre vitesse, vous avez l'essentiel, ne vous inquiétez pas. Après, c'est toujours intéressant de mesurer la fréquence de foulée. C'est vrai que si on a une fréquence qui augmente, c'est qu'on a une diminution de la force. Voilà, bon, la puissance, c'est la force-vitesse. Mais bon, je pense que la vitesse, ça suffit en course à pied. C'est pas comme en vélo, où là, en vélo, il faut avoir la puissance, effectivement. puisque la vitesse en vélo ne veut rien dire, vu que c'est 90% du coût énergétique en vélo, c'est l'aérodynamisme. Il suffit d'être derrière le mec ou d'avoir du vent, etc. Bon. Mais en course à pied, c'est absolument pas nécessaire. La vitesse suffit largement. Alors, excuse-moi, la fréquence cardiaque.
Voilà, pour en revenir sur la fréquence cardiaque, de manière un peu générale, la définition de ce que c'est, quelles sont les différentes zones d'intensité qui peuvent être définies avec cette base-là, et puis est-ce que c'est applicable dans le cadre d'un entraînement en trail, par exemple.
La fréquence cardiaque, elle est juste intéressante pour voir qu'à un moment donné, on n'a plus de glycogène, on est limité musculairement. Le jour où on n'arrive pas à monter en fréquence cardiaque, c'est qu'effectivement, soit on n'est pas acclimaté à l'altitude, puisqu'en altitude, le cœur se préserve et on n'arrive pas à monter en RFC, soit qu'on n'a pas assez de puissance musculaire et que ce jour-là, bon, on ne peut pas envoyer du bois et que le cœur, lui, il attend que ça se passe. Il dit, bon, ce jour-là, tu n'as rien foutu.
C'est le muscle qui limite et pas le cœur, et pas le cardio.
C'est un esclave, le cœur. Il suivra toujours. C'est le truc qui ne s'arrête jamais de la naissance à la mort. Et non, je ne m'y intéresse pas du tout. Si ce n'est que quand je constate qu'effectivement, la personne n'a pas monté, s'inquiète du fait qu'elle ne soit pas montée. Bon, ah oui, je dis, bah ouais, mais t'es à quelle vitesse, t'es montée à combien? Bah ouais, non, bah finalement, je ne suis pas pu monter. Bah ouais, parce que tu n'avais pas mangé assez entre deux entraînements, t'as doublé, donc tu n'auras plus de glycogène. Il ne faut pas oublier que, bah oui, on doit envoyer trois fois le poids du corps à chaque appui. Il nous faut de la créatine phosphate, il faut de l'ATP, il faut du glycogène. C'est ça la course à pied, c'est pas du vélo. Hein. Il y a vraiment ce temps d'impulsion qui est et c'est compliqué parce que quand on revient de blessure, qu'on a fait que de l'aqua jogging, etc., on n'a pas fait le travail avec des appuis, hein, surtout en cas de fracture fatigue, il faut retrouver cette capacité à impulser. Et l'impulsion, je rappelle que c'est la I égale F, c'est la force fois le temps. Et notamment sur marathon, pour la conservation de la quantité de mouvement, il faut avoir une impulsion constante. Hein, c'est la même chose que. Et quand on n'a plus de force, on a tant d'appui au sol qui monte, et quand on, en général, c'est tout à fait lié au manque de glycogène, le raccourcissement de la fibre musculaire est trop long, trop lent. Donc, non, je ne m'intéresse pas du tout à la fréquence cardiaque.
C'est pas une base que vous utilisez. Toi, Simon, de ton côté, tu en as parlé légèrement tout à l'heure, c'est quoi pour toi ta relation avec la fréquence cardiaque? Est-ce que tu l'utilises de temps en temps ou pas?
Ouais, moi, je l'utilise. Si un athlète n'aime vraiment pas la portée, peut vraiment faire sans. Après, maintenant, je trouve ça intéressant. Là, ils commencent à avoir des ceintures au bras qui sont quand même beaucoup plus agréables et qui sont quand même assez pertinentes en termes de données. Du coup, moi, si l'athlète peut le porter au maximum, je trouve ça va toujours des données en plus. Et si c'est pas contraignant, ça donne toujours un plus. Moi, ce que je disais, d'ailleurs, j'aime pas une séance à la fréquence cardiaque, sauf si vraiment on a fait un test physio il y a peu de temps et que l'athlète a du mal à respecter par exemple ses zones quand il va travailler au seuil ou trucs comme ça, et là par exemple il va avoir une fréquence cardiaque max à pas dépasser pendant sa séance. Moi c'est plus là-dessus, pour moi je bosse jamais à une fréquence cardiaque à atteindre, parce que pour moi il y a trop de facteurs qui font notamment glycogène comme l'a expliqué Véronique juste avant, qui font que tu vas plus ou moins monter. Par contre, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui ont tendance sur les séances d'intensité à aller trop vite. Et dans ce cas, je trouve que c'est intéressant de mettre une fréquence cardiaque maximum à ne pas dépasser pour justement un peu contrôler ça, même si bien sûr, ça a ses limites. Hein. Ça a ses limites.
Nous, après Olivier, tu iras, je pense, dans mon sens, mais nous, ce qu'on aime faire, c'est effectivement utiliser cette fréquence cardiaque. Alors, l'idéal, c'est d'avoir effectivement pouvoir la mettre en rapport avec un test qui permet de déterminer les différents seuils, et pour mettre des plages de fréquence dans laquelle travailler, haut et bas, ce qui permet d'avoir, de mon point de vue, quand même un garde-fou. Après, on le dit souvent, mais il y a des inconvénients à cette méthode de la fréquence cardiaque, parce que effectivement, si on part sur des zones préétablies en fonction, par exemple, d'un test à l'effort, et que les conditions extérieures varient, comme la chaleur ou l'humidité, ça peut fausser dès le départ, même sans avoir commencé l'entraînement, ces valeurs-là. Hein, Olivier, tu confirmes?
Ouais, tout à fait. Après, on va utiliser les fréquences cardiaques sur des entraînements suffisamment long, je dirais, hein, puisque sur tout ce qui est fractionné, ça n'a pas de sens, parce que c'est trop, le temps est trop court pour laisser le temps justement au cœur de monter. Donc ça, on va pas l'utiliser dans ce cadre-là. C'est plutôt des indications d'intensité qu'on va essayer de donner aux coureurs. Encore une fois, hein, s'adresse beaucoup à des coureurs récréatifs, donc ils ont besoin de ce genre d'informations. Mais sur le plus long, ouais, bien sûr, c'est exactement, on va donner des zones. Il faut aussi donner la possibilité aux athlètes d'avoir certaines maîtrises ensuite hein, de leur entraînement en fonction de leur capacité du moment, leur sensation du moment. C'est clair, hein, comme Simon, on ne va pas dire il faut que tu fasses, il faut que tu sois à 160 parce que toi, ton 160, c'est ton SV2, par exemple. Hein, c'est...
Non, mais et moi, je ne suis pas non plus à être comme ça parce que de toute manière, il peut avoir une dérive. Et...
Non, mais c'est ce que je dis, ouais, tout à fait.
C'est plus, des valeurs max. Mais après, je pense que c'est super de pouvoir allier sensation et FC pour que la tête arrive à se connaître. Hein.
Je pense que c'est encore plus vrai dans le cas d'athlètes qui débutent ou de niveau intermédiaire, qui n'ont pas réellement de conscience de quel niveau d'intensité correspond à quelle fréquence cardiaque ou quelle zone d'intensité, parce que ça leur permet aussi par ce biais-là, alors c'est pas parfait, c'est clair, mais ça leur permet d'avoir un outil en plus pour savoir s'ils sont dans le vrai ou pas. Effectivement, nous, on constate quand même beaucoup que quand on demande à quelqu'un de faire une sortie longue à intensité modérée ou faible et que on se rend compte qu'il passe la moitié de sa séance dans des zones d'intensité qui sont beaucoup trop hautes, ben, ce moyen-là, c'est un moyen aussi de l'alerter en lui disant on pense que t'étais trop haut et que s'il n'y avait pas eu ce capteur cardio, ben, il nous aurait peut-être dit perception de l'effort 3 ou 4 sur 10 parce qu'il a l'habitude de travailler dans ces intensités-là et qu'en fait au niveau cardio, il était bien au-dessus de ce qu'il imaginait. Donc moi, ce que je pense, c'est vraiment un outil supplémentaire. Quoi.
Ouais, moi aussi, la plupart des athlètes aiment, on va dire, forcer et s'entraîner vite, que ça soit de l'endurance, on va dire, au sens d'intensité. Et moi, je trouve que c'est un bon moyen de tempérer. Et puis, pour le coup, nous, on bosse vraiment en trail. Enfin, moi, je bosse en trail et en ski alpinisme. Et c'est quand même totalement différent de ce qu'on peut retrouver sur route, où effectivement, il y a quand même d'autres valeurs qui sont… Enfin, c'est plus simple de… Tu vas juste jeter un coup d'œil à la sortie d'une certitude plate. Je suis pas sûr que l'AFC ajoute vraiment quelque chose. Mmh. Alors que, nous, c'est quand même totalement différent… que ce qu'on retrouve en marathon. Hein.
Véronique, on a nous dit un peu du bien sur la fréquence cardiaque, donc on a compris que pour vous, c'était pas forcément un outil que vous utilisiez. Allez-y, hein, si vous voulez donner des contre-arguments par rapport à ce qu'on vient de dire.
Ouais, non, en fait, on n'a pas du tout le même référentiel. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber les tests triangulaires avec ces histoires de zones qui ne veulent rien dire. En plus, ce lactique n'existe pas. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est ta stable maximum du lactate dans le temps. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes références. Donc, c'est difficile de dire oui ou non. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai un test de référence qui, au départ, demande la variable indépendante. La consigne, c'est non pas une vitesse qu'on incrémente sur un tapis, mais c'est une sensation.
D'accord.
Donc, je demande à quelqu'un de faire 10 minutes allure facile, 1 minute de pause, un sprint, 5 minutes allure moyenne, 1 minute de pause, 3 minutes allure dure, 1 minute de pause et 30 secondes à bloc, et de nouveau 10 minutes facile. Si bien que dès le départ, comme vous l'avez dit, je peux tout de suite voir si la personne se sent ou pas. Notamment moi aussi, j'ai des débutants, hein, j'ai de tout, mais ce n'est pas forcément les athlètes de haut niveau qui arrivent à. Souvent, ils sont durs avec eux-mêmes. C'est la zone facile. Mmh. Elle est, alors moi, je mesure VO2, je mesure la puissance, je mesure exactement tout, même le cerveau maintenant. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, dans ce test de référence, qui est un référentiel de sensations, donc là, dès le départ, on s'inquiète pas d'avoir des zones, des machins, qui, en fait, après, sur le terrain, ça ne va rien, parce que sur le terrain, on est à la sensation. Donc moi, mon test, dès le départ, il est à la sensation. Comme ça, je suis déjà, si la personne, elle a tendance à être dure avec elle-même, vous savez, quand on lui dit facile, elle est déjà dans la zone moyenne, 80% est en zone d'hyperventilation limite avec une lactatémie qui n'arrive pas à se stabiliser. Donc, je sais déjà les départs qui se font. Donc, j'ai 4 items. J'arrive à partir de ce test de donner un profil énergétique de puissance, de tolérance à l'acidose cardio et un référentiel pilotage. C'est-à-dire, est-ce que je suis un pilote fiable ou pas? Est-ce que je suis trop dur avec moi-même ou pas? Voilà. Donc, une fois que j'ai ce framework, ce référentiel, après, tous mes entraînements, c'est des codes couleurs à la sensation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'expliquais, moi, j'ai un peu exploré l'entraînement croisé. Donc, ce référentiel, j'ai eu l'occasion de le tester sur différents chez des triathlètes. Il est robuste, quel que soit le support d'effort qu'on fait, vélo, course. Quand on est dur avec soi-même, on est dur avec soi-même, quoi qu'on fasse. Mmh. Donc, après, ce facile, moyen, dur, ces consignes de sensation, donc j'ai des séances à thème de puissance, de cardio, de tolérance à l'acidose et des séances qui apprennent à piloter, un peu subtiles dans les décours temporels de vitesse, d'allure, de sensation. Et à partir de là, ben, j'arrive à finalement à améliorer les gens en jouant sur cette capacité de pilotage. Et dès le départ, j'ai un test qui mesure tout ça. Donc, voilà. Comme ça, je me mets en vraie situation de ce qui est. On va être face à soi-même. Hein. Mmh. On n'est pas dans des zones où on augmente la vitesse par palier, etc. Donc, tout ce référentiel de zone, tout ça encore, il faut oublier les jeunes. Là, ça, vous m'inquiétez parce que.
c'est pour ça qu'on discute.
À ma décharge, enfin, je suis prof en STAPS, donc je le sais. C'est tellement plus facile d'enseigner des tests triangulaires SV1, SV2. Soit aérobie et anaérobie, et après on est dans des zones en vélo. À Besançon, c'est Frédéric, hein, en vélo, il a fait tout un bouquin dessus, zone A, A7. Voilà. C'est tellement simple, c'est tellement décartien et carré, bam, bam. Mais c'est pas ça l'entraînement. L'entraînement, c'est pas comme ça. On est sur le terrain, c'est la vraie vie, et on n'a pas ce référentiel, ces zones.
Mais bien, nous, on fait un test VO2, mais par contre, on le fait en boss par palier. Par contre, c'est l'athlète qui met lui ses paliers, parce que de manière en boss, c'est impossible sur le terrain. Donc, c'est à la sensation. En gros, souvent, on va lui faire entre 6 et 8 paliers. Et très simplement, tu lui expliques la boîte de vitesse en voiture. C'est comme s'il avait 6 ou 8 vitesses et il les active petit à petit. Donc, en fait, c'est quand même relié à la sensation. Et en fait, toutes les
séances. C'est des paliers courts. C'est des paliers.
Pour le coup, c'est des paliers assez courts. Enfin, ça dépend. Les tests qu'on fait, mais c'est entre 2 et 3 minutes. Ouais. Mais c'est juste pour dire que, enfin, moi, c'est pas parce qu'en tout cas, moi, j'utilise la fréquence cardiaque, que je considère que les zones sont, enfin, c'est même pas pour avoir des zones, en fait, hein. C'est juste pour avoir une mesure supplémentaire qu'on peut, enfin, et une mesure, on va dire, que va sortir, enfin, le corps humain et qui permet de donner des retours à l'athlète ou non, d'ailleurs, si on a des doutes sur ce que c'était ou selon les conditions, et pour aider l'athlète à justement à affiner ses sensations et à travailler dans la bonne zone, parce que le nombre d'athlètes, enfin, moi, j'ai été beaucoup aussi juste à la sensation, et le nombre d'athlètes, en fait, qui ne travaillent jamais au seuil, ils travaillent tout le temps au seuil, parce qu'en fait, tu leur dis de travailler au seuil, et eux, en fait, globalement, ils font un 3x10, ils le font, enfin, 3x10, ils vont dire qu'ils le font pas à fond, mais au final, ils sont à 98%, parce qu'effectivement, ils sont durs avec eux-mêmes. Et la plupart des athlètes de haut niveau, dès qu'ils peuvent pousser, ils poussent et leur niveau de résistance à la douleur est beaucoup plus élevé.
La question que je me... Merci Simon, merci pour le retour là d'expérience. Véronique, la question que je me pose sur ce sujet-là, c'est qu'on a bien compris, c'est que votre base de réflexion de cadre d'entraînement, c'est lié initialement à la sensation perçue de manière interne par l'athlète. Mais la question que je me pose, c'est si l'athlète n'a pas réellement la bonne conscience de ce qu'est sa perception à lui, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de travailler dans des hautes intensités, vous voyez ce que je veux dire? Si sa perception interne est faussée, est-ce qu'on part pas sur des mauvaises bases?
C'est pour ça que nous, pendant les deux premières semaines, on ne fait que des séances de sensation. On apprend et on lui fait un retour. Déjà, quand on lui fait le test, on mesure VO2, etc. Donc, quand déjà de base, c'est un mauvais pilote, on lui montre, tu vois tes courbes là, tu vois, il y a un débrief, hein, c'est présentiel. Tu vois, ta VO2 là, il n'y a pas de différence quand tu regardes ta VO2, il n'y a pas de différence. Et tu croyais faire ça, mais non. Alors, déjà, il a ce retour complet, puis après, effectivement, pendant deux semaines, on lui donne des séances de pilotage et on lui renvoie son image. On a un logiciel en ligne qu'on est en train de faire l'API avec Garmin. Enfin, c'est des moyens financiers. Hein. On est en train de développer. Là, pour l'instant, il faut déposer la séance en TCX sur le site internet BiaTraining. On fait glisser et les gens, ils ont leur courbe automatiquement qui sortent. Et surtout, nous, derrière, on analyse. On a une IA qui analyse ce qu'ils ont fait. On met le calque de test de référence à la sensation, enfin le rabbit test, le running and rabbit training test qu'on a validé internationalement. Et déjà, de séance en séance, on regarde s'ils sont améliorés en termes de bijection entre une sensation et le pourcentage de VO2 max de référence qu'on avait fait dans le test live. Voilà, donc c'est vrai qu'on fait que ça pendant 2 semaines. On fait que ça. Voilà.
Mais du coup, ce test VO2, du coup, alors ce que j'aimerais comprendre pour creuser un petit peu là-dedans, c'est vous comparez donc en fonction d'un protocole que vous avez mis en place, on va dire 2 semaines, des sensations avec une base de calcul, enfin avec une base qui est basée sur la VO2 max. Mais donc du coup, comment cette base est calculée initialement? Vous voyez ce que je veux dire pour faire la corrélation entre les deux?
Alors, nous, on le mesure, hein. C'est-à-dire que une zone d'entraînement facile. On a pour chaque personne dans le test de Rabbit, on a effectivement validé le fait que le seuil ventilatoire, même les Italiens l'ont validé. C'est-à-dire que ils ont fait un test triangulaire en vis-à-vis et on a démontré que notre test permettait d'avoir exactement tous les référentiels habituels, mais en mieux, parce que à iso-sensation, les personnes varient leur vitesse. C'est-à-dire quand on veut rester en zone facile, on n'est pas comme ça, hein. Et justement, notre capacité à varier notre vitesse à l'intérieur de zone de sensation est un bon point, parce que c'est une capacité à gérer l'information physiologique. Le fameux central gouverneur, qui est une histoire de boîte noire de Nox, qu'on n'a jamais pu démontrer, on est en train de travailler dessus. Effectivement, un bon pilote, c'est quelqu'un qui est capable de gérer sa vitesse pour rester dans une zone d'iso-sensation facile, moyen ou dur. Voilà, quand on est en fait la vitesse moyenne, on n'y est jamais, c'est juste un calcul mathématique, toujours en termes d'oscillation. Et ça, c'est bien. Donc, on vérifie ça, c'est-à-dire que la personne, elle reste dans une zone par rapport au test initial, où on avait des zones de sensation. Le truc étant que les zones facile, moyen, dur doivent être très différentes entre elles, mais qu'à l'intérieur de laquelle, ça oscille et il peut y avoir des chevauchements entre le haut. Le dernier quartile, en termes de dernier quartile de la vitesse facile avec le bas de la zone moyenne. Voilà. Il peut y avoir des petits chevauchements, mais l'idéal, c'est que ça arrive à un petit peu se dissocier. Donc, on compare avec le test de référence du départ, oui. Okay. C'est ce que font les gens.
Olivier, de ton côté, de l'autre côté, le travail à la sensation, surtout en trail, c'est quelque chose que tu utilises régulièrement. C'est comment déjà tu définis la sensation si par exemple tu donnes une séance en endurance fondamentale ou on va dire à intensité modérée, comment tu définis ça sur la base de la sensation?
Ouais. Après, ça va dépendre de la personne que tu as en face de toi ou du groupe, hein. On entraîne des clubs, donc quand tu as une séance avec 60 personnes, on s'aperçoit qu'on parle quasiment essentiellement de sensations, parce que là tu vas pas parler de quoi que ce soit d'autre, parce que chacun va être différent dans le groupe, hein. Donc tu essayes de donner avec des mots ou avec des référentiels qui peuvent parler un petit peu à tout le monde, pour permettre aux gens justement de raccrocher la sensation avec autre chose, hein, qu'ils connaissent peut-être. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'allure tenable sur un 10 km pour ceux qui ont fait du 10 km ou d'allure tenable d'intensité, en tout cas, qui ressemble à une course de semi-marathon, de marathon, ou alors de fréquence cardiaque pour ceux qui ont un cardio et qui ont l'habitude de regarder ça. Donc, voilà, on va essayer d'adapter, en fait, le discours au référentiel de chacun. Dans le groupe, ou en tout cas du maximum. Après, quand tu as un seul individu, c'est pareil, hein. C'est quoi le passé de l'individu? Il avait l'habitude de travailler avec quel type d'information? C'est le mieux. Après, on adapte dans ce cas-là.
Toi, Simon, de ton côté, quand tu donnes des séances à tes athlètes, tu l'as dit, tu te bases beaucoup sur la sensation, mais c'est quoi tes repères? Quel mot, quel vocabulaire tu utilises pour les guider?
Moi, ça va être aussi, notamment au début, des collaborations, t'essayes de discuter avec lui selon les séances que tu veux, enfin, la zone ou la qualité que tu veux travailler. Et en fait, d'échanger sur les sensations qu'il a eues. Et donc, après, en fait, ça peut passer, un peu de la ventilation, s'il arrive à parler, du temps qu'il pense qu'il peut tenir à cette allure. de plein de choses comme ça, et en fait après d'affiner en fait moi de son l'idée, comme je disais, c'est vraiment d'affiner avec le maximum de marqueurs qu'on a, et en fait aussi en fait de lui donner vraiment au début la sensation, et pour sur les premières séances de vraiment faire des retours très précis pour voir en fait au fil des répétitions est-ce qu'il a maintenu, est-ce qu'il a accéléré, est-ce qu'il a ralenti, enfin en fait ouais, c'est dès le début en fait comme d'intégrer des données enfin je sais pas si c'est mathématique, mais en tout cas des données pour affiner les sensations de l'athlète. Et ça pour le coup c'est des processus qu'on fait quand même relativement régulièrement, parce que pour moi dès qu'un athlète selon les périodes où est l'athlète, selon les différents blocs d'entraînement, je trouve que les sensations peuvent quand même vite évoluer en période de que ce soit après des notamment quand elles sont longues ou que dans des périodes de coupure, dans des périodes de blessure, ou dans une période où l'athlète s'entraîne régulièrement, il est en forme, il y a quand même vraiment, il y a quand même vraiment un différentiel sur les sensations. Et du coup, le but, ça va être de trouver les petits ajustements petit à petit, sans non plus, en fait, mettre une surcharge mentale à l'athlète, à constamment essayer de les faire chier pour 1%. L'idée, c'est tant qu'il bosse à peu près dans la, où c'est qu'on voulait qu'on bosse, donc que ce soit en termes de sensations, en termes de zone, ou en termes de, globalement, en fait, ça c'est qu'un mot, et, mais globalement, tant qu'il développe la qualité qu'on veut qu'il développe, l'idée c'est de se dire que c'est OK, de toute manière on ne peut pas atteindre le 100%.
OK. Ouais. Très bien. Moi j'ai partagé un petit peu mon expérience et notre expérience, c'est avec Olivier et Thomas et Benjamin aussi. On met quand même pas mal de séances à la sensation, effectivement. Et après, je reviendrai sur ce qui est de mon point de vue, ce qui sont de mon point de vue des inconvénients à cette méthode aussi. Mais effectivement, on utilise la perception de l'effort ressenti qu'on pourrait avoir en mettant une note de 1 à 10, on va dire. Après, on utilise aussi la capacité à avoir une conversation, le mettre en relation avec un type d'objectifs, que ce soit marathon ou semi-marathon, etc. Ça peut être assez utile. Donc c'est pour ça là, quand on donne une séance à la sensation, je pense que c'est intéressant de donner 3-4 différents paramètres, alors qui sont assez abstraits, mais qui permettent de donner plusieurs billes à l'athlète. Là où je vois une petite limite, moi quand même, ou plusieurs petites limites à cette histoire de sensation, ça va être notamment dans le cadre d'un objectif, par exemple, comment déterminer sa sensation quand on est sur la ligne de l'UTMB, la ligne de départ de l'UTMB. Quand on est pris dans un wagon en début de course avec une centaine de coureurs autour de soi qui faussent complètement la perception de notre vitesse, notre intensité, etc. Et puis cette notion de sensation, qu'elle devient quand le terrain change, quand les pentes augmentent, comment l'adapter, comment la modifier cette perception qu'on a de l'effort. C'est ça aussi qui me fait aussi penser que utiliser la perception uniquement comme base de réflexion, je pense que c'est trop limité. Je sais pas ce que vous en pensez, Véronique, sur ce point de vue-là.
L'euphorie du départ, c'est de la dopamine, hein. C'est pouvoir soulever un camion quand on a son gamin en dessous.
C'est ça.
Ou porter son berger allemand quand il s'est fait un retournement d'estomac et une image de 45 kilos, ça m'est arrivé. Dans la voiture, quoi. Enfin, c'est respectons ça. Il n'y a aucun problème. De toute façon, il faut se dire que toutes les. Bon, alors pour moi, l'UTMB, c'est de la course à pied pour certains, mais la plupart du temps, c'est de la marche. On va pas se mentir. Je parlerais plutôt de course comme Cerzinal. Là, c'est de la course à pied. Tout ce qui est pris au départ, c'est toujours bon à prendre. Je veux dire. Un record du monde du marathon, ça se gagne un Kipchoge, il part en 2:43. Je pense que partir vite, c'est bien. C'est toujours ça d'engranger. De toute façon, c'est une mort lente. Hein, les courses longue durée, c'est une mort lente. Alors autant travailler sur la fraîcheur, gagner un petit peu. Bon, après, c'est sûr qu'il faut savoir couper à temps. Mais il faut respecter son envie. Et c'est vrai, l'euphorie du départ, allons-y, quoi. C'est toujours ça de prix. Après, il faut savoir couper. Bon, voilà. On le sait. C'est pareil, quand on part à Cerzinal, il y a la bonne côte, là. Bon, après, faut se calmer un petit peu, quoi. C'est comme dans les crosses, hein. Il y a toujours un virage bien placé ou un marbre allemand. Faut partir à fond, puis après, on coupe. C'est pas grave, ça. C'est des circonstances euphorisantes. Donc, c'est le contraire, c'est très bien.
Donc,
il faut pas calculer. Moi, je dis, le problème actuellement, c'est que Et je n'oublie pas. Hein. Je crois que on a tellement mis de métriques, de trucs compliqués, que les gens, moi je vois les gens, ils se prennent la tête, je veux dire. C'est retrouvons le plaisir de courir déjà. Allons-y déjà. Un objectif, aller courir une belle course, là, ça motive à fond. Se dire, bah, tiens, un petit challenge l'année prochaine, bah ouais, je me fais Cerzinal, tiens, super course, c'est tellement beau. Voilà, c'est des trucs comme ça. Puis après, l'envie fait le reste et écouter son corps, apprendre à respecter son corps, ses sensations, etc. Puis si on a envie d'y aller à un moment donné à fond, on y va. Hein. Savoir que faire des sorties longues, de 2-3 heures où on va attaquer toutes les côtes, ça c'est pas mal inspiré du ski de fond. J'ai un intervalle naturel, c'est on a envie d'attaquer une côte, on attaque une côte, on attaque une descente. Laissons parler les envies et arrêtons de vouloir tout contrôler, sachant que, comme vous l'avez dit, la précision des mesures VO2 et tout ça, ça se fait à 5%, pas mieux. La fréquence cardiaque au bracelet, ben, c'est pas fiable. La ceinture, c'est chiant, ça glisse, donc arrêtons avec tout ça. Moi, je dis, on pourra tout envoyer, tout ça. On pourra se passer de tout. Mmh. Si on peut se passer de tout, c'est qu'on a bien entraîné, quoi. On a, voilà. Mais il y a un travail de validation à faire et de test à la sensation de tout ce chemin. Mon but, c'est de pouvoir, d'ici 5 ans, tout envoyer en l'air. Et pour ça, j'en suis déjà à l'étape cérébrale, voir ce qui se passe dans le cerveau, pour pouvoir, après, je donner des indications de sensation. Alors moi, j'avais eu l'occasion d'entraîner quelqu'un qui a fait du T4M. J'ai donné des consignes d'animal, ça lui parlait. Donc, tu pars trottien, petite gazelle, machin, il avait des images d'animaux. Et cette allure, c'était des images d'animaux. Après, voilà, faut comme vous l'avez dit, faut s'adapter à chaque personne. Ça lui parlait bien, plutôt que de facile moyen de très dur. Voilà. Mmh. Donc, moi aussi, j'ai des images d'animaux, parce que j'ai une ponette, je fréquente les chevaux et les chiens et tout ça. Donc, ça me parle. Les chiens, c'est des trotteurs. Voilà. Donc, les bergers allemands, tout au moins. Et puis, comme tu l'as dit, il y a des tests, le talk test, c'est bien. Ouais, quand on peut plus parler, voilà. C'est pas mal aussi, des trucs comme ça. On peut plus parler. C'est qu'on est dans le seuil ventilatoire 2, voilà. Une zone d'hyperventilation où là, on sait qu'on va taper que dans les sucres. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on peut plus parler, moi, j'ai vu dans la pentraide de Cerzinal, il y avait une pléthore de gens qui ont calé, qui étaient en hypoglycémie parce que, il s'était mis dans une zone où, là, pour le coup, c'est une vraie zone où on est à 100% sur les sucres. On a passé le crossover point de Brooks et on est dans la zone, on n'est plus dans les lipides du tout et on est à 100% sur les sucres. Et là, bon, on en a pour 1h15 d'autonomie si on ne se ravitaille pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut se ravitailler tout de suite.
Donc, c'est vrai. Ouais.
Mais il faut penser à la Bastille, à prendre le ravito au 5e kilomètre.
C'est pour ça que, de mon point de vue, on y revient aussi. C'est partir à Cerzinal, qui est une compétition particulière, ou partir dans une course qui fausse complètement nos perceptions de l'effort, de nos allures habituelles ou de nos intensités habituelles d'entraînement, ça peut quand même avoir des conséquences qui peuvent nous faire péter en plein milieu de la première montée en hippo. Est-ce que c'est pas aussi un avantage que d'avoir un petit ou plusieurs petits outils complémentaires qui peuvent nous dire oh attention là t'es dans une zone qui peut amener des conséquences.
La fréquence cardiaque en côte, elle n'est pas du tout la même que sur ces tests de référence. Mmh. Rien à voir. Et puis, la durée, ça monte de façon linéaire. Alors qu'on n'est qu'à 50% de VO2 max, la fréquence cardiaque peut monter à 90% de la fréquence de réserve. Donc, ça n'a rien à voir. Franchement, il n'y a que le moyen, c'est effectivement ne pas être capable de parler. Okay, on est dans la zone glucide. Hein. Mmh. C'est le plus ultime, et d'avoir appris à ça, à l'entraînement, à reconnaître ça. Mmh. Le cardio, ça sert à rien.
Olivier, qu'est-ce que tu en ressors? Qu'est-ce que tu peux donner comme argument?
Par rapport aux sensations, il y a un truc que j'aime bien dire aux athlètes. Alors, encore une fois, c'est aux athlètes qui ne sont pas forcément très expérimentés. C'est parfois se méfier quand même de ces sensations, parce que tous les coureurs ont expérimenté cette sensation en début de course ou même au bout de quelques temps où ça va super bien parce que tu as l'adrénaline du départ, parce que tu as la fraîcheur, parce que voilà, tout va super bien et tu te dis mais à ce rythme-là, finalement, je vais pouvoir durer éternellement. Bon, j'exagère un peu, mais je vais pouvoir garder ce rythme-là éternellement. Et là, donc, quand tu es comme ça, tu te réfères à tes sensations du moment. Sauf que éternellement, en fait, généralement, ça s'arrête, ça peut s'arrêter relativement vite. Alors, tout est relatif, hein, relativement vite, ça peut être 2-3 heures pour certains, ça peut être, voilà, ça dépend de l'allure et du type de parcours que tu as en face de toi. Mais là, je dis attention, parce que là, c'est des sensations. Alors, est-ce que c'est des sensations que tu appelais faussées tout à l'heure, Nico, ou est-ce que c'est. Mais c'est des sensations qui peuvent être dangereuses. Sur, encore une fois, quand tu n'es pas expérimenté. Quand tu es expérimenté, tu sais que, et là, je suis tout à fait d'accord avec Véronique, hein, tu sais que bah, profites-en un petit peu, mais à un moment, il faut vite revenir à la réalité avant que la réalité vienne à toi, quoi, en fait. Mm-hmm. Mais quand tu ne le sais pas, ça peut être dangereux, parce que là, tu vas droit dans le mur, quoi. Mais vraiment direct, il y a un moment, tu passes de tout va super bien, je vais pouvoir durer comme ça des heures, à boum, bah, ma course, elle est terminée, je suis obligé de marcher parce que j'avance plus, parce que j'ai plus de glycogène ou parce que j'ai plus de force ou peu importe, mais c'est terminé. Donc, effectivement, les sensations, il faut bien sûr les écouter, mais il faut connaître aussi leurs limites. Mmh. Voilà. Je pense que c'est… Moi, je retiens ça. Et c'est vrai que… Bah, ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait de pouvoir parler ou pas parler, c'est et la respiration d'une manière générale. Moi, quand j'ai un athlète ou un groupe d'athlètes, je suis capable de voir quand il passe, quand il a une séance où il est censé être en EA, par exemple, quand je l'entends passer, je suis capable de dire, bien entendu, bah, toi, tu n'es pas en EA du tout. Là, tu es au seuil, voire limite, peut-être limite VMA. Désolé, Véro, je reviens sur ces notions un peu datées, mais voilà, juste à la respiration, je suis capable de lui dire tu vas trop vite. Donc maintenant, il faut que tu ralentisses parce que là, tu sors du développement physio qu'on veut faire. Mmh. Voilà, t'es sur autre chose, c'est peut-être bien, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas l'objectif de la journée. Voilà, donc ça, c'est des notions qui sont super importantes. Et quand toi-même, tu es capable de le maîtriser, tout ça, bah, c'est bon, hein. La montre, tu la regardes une fois de temps en temps pour valider éventuellement un petit quelque chose, et puis le reste, tu le fais uniquement à la sensation.
Hyper intéressant. Moi, j'ai un autre test aussi quand tu fais des séries ou des répétitions, par exemple au seuil ou à l'endurance active, tu vois la position de la personne à la fin de la série, si elle a les mains sur les genoux, c'est mauvais signe pour être en tempo, en endurance active, c'est qu'en général, elle est plutôt effectivement ou au seuil ou au-dessus. Toi, Simon, ben, je vais te poser une question, alors tu nous partages ce que tu veux, hein, dans le cadre assez précis d'un athlète comme Rémi ou des athlètes de très haut niveau que tu encadres. On aimerait comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour un athlète comme ça. Est-ce qu'ils se connaissent tellement bien que tu as limite pas besoin de parler avec eux de ces notions-là, d'intensité, etc. Par exemple, sur un Cyrzinal ou sur un Pike Ascent, il n'y a pas besoin d'échanger avec eux sur ce sujet-là. Ils sont complètement autonomes sur le point de vue athlète de haut niveau de ton côté.
C'est-à-dire en termes de pacing de course.
Voilà, de pacing de course et de gestion de l'intensité de l'effort.
Alors, ça va vraiment dépendre. Il n'y en a pas un qui est pareil, mais alors il y en a, c'est vraiment avant chaque course, on va un peu en discuter pour avoir des valeurs de référence. D'autres comme Rémi, c'est plus. C'est vrai qu'il commence à avoir l'habitude. C'est plus de temps en temps qu'on fait vraiment des bilans. Et ben là, on va vraiment rediscuter de. C'est plus, on va dire, discuter d'un groupe de courses et pour en tirer des leçons, pour ajuster en fait pour les prochaines. Mais on va pas forcément faire de bilan, on va dire, sur le pacing course par course, sauf s'il y a vraiment eu une grosse erreur. Mais c'est plus, par contre, sur d'autres athlètes, là, comme Baptiste Chassagne, sur certaines courses, lui, pour le coup, il a, enfin, notamment sur du long, on arrive sur des débuts de course, d'être un peu à l'AFC ou ce genre de truc, ouais.
Donc même des profils assez expérimentés comme Baptiste, c'est l'AFC, c'est des outils que vous utilisez, assez intéressant.
Ouais, non, de toute manière, bah là oui, c'est moi ce que vous disiez tout à l'heure. En même temps, c'est super intéressant l'engouement de début de course, mais ouais, effectivement, il faut savoir le gérer. Il y a des athlètes qui sont très émotionnels de moins, et il y en a une fois qu'ils sont montés émotionnellement, s'ils n'ont pas quelque chose pour leur dire de ralentir, ils ralentiront pas, quoi. Et toi aussi, ça sur du plus court, mais je pense typiquement sur des verts. Je pense des verticales à ski, des efforts de 20 minutes. Tu as des athlètes sur genre de distance qui vont être capables de partir fort et après de maintenir. Et d'autres, par contre, qui ont plutôt peut-être des profils à moins bien cycler le lactique ou à plus monter du moins. si eux, ils commettent l'erreur de partir fort, ben, ils ont peu de chance, enfin, ils risquent d'exploser. Alors, par contre, si jamais ils sont en réserve et qu'ils arrivent au sprint, la prendre de sûr, derrière, ils vont gagner. Mm-hmm. Mais en fait, selon les profils de chacun, en fait, c'est arriver à trouver comment réagit son athlète pour que lui trouve le passing qu'il a besoin et qu'il convient le mieux, quoi. Parce qu'on est sur des courses, on n'est pas sur des courses au temps. Hein. Mm-hmm. Je pense que sur une course, enfin, si on devrait parler marathon, c'est totalement différent et on peut encore plus, on va dire, se référer juste à la science. Mais là, le but, c'est de donner une course de trail, une course de ski. Si on est capable d'un athlète de haut niveau qui joue la victoire, le but, c'est surtout de gagner la course, puisque bon, peut-être à Cerdinal, il y a un peu le temps qui rentre en jeu, mais c'est une des rares courses de l'année où on regarde le chrono à la fin. Hein.
En plus, moi, je voudrais rajouter aussi par rapport aux sensations, notamment dans le cadre des athlètes élites ou des athlètes qui performent, c'est quid de ces sensations quand autour de soi on a, quand on est Baptiste Chassagne et qu'autour de soi on a un Jim où on a un Thibaut Garivier avec qui on se compare, forcément, c'est naturel, je pense aussi, dans ces niveaux de compétitivité-là. Quid de la sensation interne, quid de nos perceptions qui sont modifiées par tout un environnement qui perturbe un peu tout ça.
Non, c'est sûr. Bah, après, ça, je pense qu'à part l'expérience et le fait d'enchaîner des courses de haut niveau, il n'y a pas grand-chose. Après, ce qui est bien, c'est que c'est aussi un mini-milieu et globalement, enfin, on côtoie la plupart des athlètes, pas tous, mais du moins… Enfin, quand t'es athlète de haut niveau, tu peux vite t'entraîner avec d'autres athlètes de haut niveau et t'as quand même ce côté-là, même à l'entraînement, de t'entraîner avec soit plus, enfin, avec des mecs plus forts ou du moins des mecs de renom. Donc ouais. Mais bon, après, je pense aussi juste, si un athlète bosse ou si un athlète, ou n'importe si le matin avant l'entraînement, il a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, enfin, toutes ses perceptions, son départ de séance, ça peut être la même, hein. Enfin, les sensations évoluent comme en fait quand en course, tu vois, au départ ou quand finalement tu te fais doubler ou que tu doubles du monde, et finalement, enfin, tu vas un peu retrouver les mêmes mécanismes.
Très clair. Véronique, je fais appel à vous là. C'est un outil qu'on utilise aussi régulièrement nous dans le cadre de nos séances. C'est quelque chose qu'on voit dans certains ouvrages comme Jack Daniels notamment. Alors là, je précise uniquement très majoritairement sur du plat ou un léger faux plat montant. Mais nous, parfois aussi, il nous arrive de donner comme consigne à nos athlètes, notamment en club, de donner des consignes de respiration sur le rythme de la fréquence respiratoire versus la zone d'intensité. Est-ce que c'est des choses qui pour vous sont potentiellement intéressantes, qui peuvent être un outil complémentaire ou là encore pas du tout?
Absolument pas, je trouve ça dangereux même. Non, il faut laisser faire ça, c'est automatique, hein. Il faut laisser faire le système nerveux, hein. Il faut surtout pas chercher à contrôler ça. Mmh. La sensibilité au CO2, bon, en fait, je travaille énormément sur le CO2 max. La sensibilité au CO2, elle est facteur limitant de la consommation maximale d'oxygène. À un moment donné, on va se laisser, il y a des athlètes de haut niveau qui se laissent désaturer en oxygène parce que ventiler au-dessus de 100 litres, quand on a un gros VO2 max, un gros débit ventilatoire, ça coûte cher. On peut arriver à avoir 25% de sa consommation maximale d'oxygène qui est utilisée pour la ventilation. C'est une adaptation que l'on a quand on est athlète de haut niveau. De même, quand on est moins bon, qu'on a une VO2 max inférieure à 60 minutes kilo, on va pas être en hypoventilation. Au contraire, faut laisser faire l'hyperventilation, notamment en altitude. Puisqu'en altitude, moi, quand j'ai fait le Mont Blanc avec des alpinistes, des submiteurs, de l'Everest versus des joggers, mais qui avaient le même VO2 max, on s'aperçoit que effectivement, là, les gens qui font pas l'habitude de la montagne, vont pas se laisser hyperventiler. Ils vont essayer de retenir les joggers. Surtout pour pas avoir l'impression d'être crevé par rapport aux copains. Il y a un essai de contrôle. Ah non, faut y aller parce que moi, j'avais sur le téléphone, on était sponsorisé à l'époque par Samsung, qui avait vraiment, on avait nos saturomètres qui étaient connectés en Bluetooth. C'était il y a plus de 10 ans, hein. J'avais donc les saturations de chaque athlète, chaque personne, chaque alpiniste. En direct sur mon téléphone, et effectivement, je leur disais ventile, on voyait la saturation qui remontait. Parce qu'il avait tendance à s'empêcher d'hyperventiler, parce qu'il disait, ah, c'est pas normal, je ne ventile pas comme ça d'habitude, je suis un jogger, j'ai la condition physique. Non. C'est, si on ne veut pas avoir une baisse de sa saturation, en gros, je reprends l'image des wagons, quand l'oxygène est fixé sur les fins de marchandises, sur l'hémoglobine, il faut pouvoir recharger dans le cœur à chaque fois au niveau pulmonaire, ventiler suffisamment pour recharger l'hémoglobine en oxygène et pouvoir après l'amener au muscle, avoir un contenu artériel en oxygène riche. Donc, il faut ventiler pour renouveler le contenu en oxygène de son sang artériel. Voilà. Donc, il faut se laisser ventiler à fond. Ouais. Ouais. Il ne faut pas chercher à contrôler ça.
Olivier, tu veux réagir sur cet aspect-là ?
Non, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des indications, en fait,
On prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que c'est plutôt une conséquence. C'est ça que tu veux dire ?
Ouais, c'est ça, exactement. On explique que grosso modo, enfin, pour faire simple, hein, grosso modo, plus tu vas aller vite, plus tu vas avoir besoin de ventiler. Et donc, on explique également que à chaque allure de travail va correspondre, grosso modo, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas fait pareil, mais grosso modo, un rythme respiratoire. Voilà. Donc, on essaie de donner des indications comme ça aux gens parce que finalement, on s'aperçoit que il y en a qui ne savent pas, naturellement en tout cas, ils ne respirent pas comme il faut en fait. Un petit peu ce que tu disais, Véronique. Hein, est-ce que c'est psychologique parce qu'ils ne veulent pas paraître très essoufflés ou est-ce que. Voilà, donc ils ont un rythme respiratoire qui ne convient pas finalement aux allures qui leur sont demandées. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens, ben voilà, grosso modo, si tu veux, alors surtout sur les allures intermédiaires, enfin un petit peu intermédiaires, parce que aller à fond, là, généralement, assez naturellement, tu vas ventiler à fond, et puis quand tu vas pas très vite, ben, t'as pas besoin de trop ventiler. Donc, c'est surtout sur les allures intermédiaires, on va leur expliquer, ben, voilà, ça correspond à peu près à un rythme respiratoire sur du 3-2, donc inspiration sur 3 foulées, expiration sur 2 foulées, mais encore une fois, sans dire c'est le Graal, c'est ça que tu dois atteindre, c'est ça la respiration que tu dois avoir. Pour certains, ça va être du 3-3, pour d'autres, ça peut être du 4-3, peu importe, mais on donne quand même des indications comme ça, des indications de ressenti corrélées avec un rythme respiratoire. Voilà.
Véronique n'a pas l'air d'accord du tout là.
À un moment donné, c'est commercial. Hein. Il y avait même des gens qui faisaient des séances pour apprendre aux gens à courir à 40€ de l'heure à Paris.
Ah non, mais là, c'est pas commercial.
Non, en plus, la fréquence respiratoire, quand on la teste avec la VO2, etc., c'est très personnel et ça dépend aussi de la fréquence de pas. Et il y a des jours où on est fatigué, on démultiplie la cadence, un peu comme un vélo. Hein, et donc, la fréquence peut être modifiée. Voilà. On ne peut pas chercher du tout à contrôler ni à donner des indications. Déjà, les gens, ils ont plein de petits trucs du genre. Des applications petit bambou là qui t'apprend à faire de la cohérence cardiaque et choses comme ça. Faut arrêter à un moment donné, aller courir les gars, et puis ça va bien quoi. Et faisons un test déjà de base où on part à la sensation. Donc soit comme le fait Simon avec des bosses, des paniers comme ça, soit comme moi. Et on verra que déjà la fréquence respiratoire n'est pas exactement la même d'une fois à l'autre avec deux tests à la sensation. Il se passait de quelques jours. Il ne faut pas mettre du scientisme dans des trucs qu'on n'est pas capable de reproduire déjà de base dans des expérimentations scientifiques.
Ouais, mais c'est pas du scientisme, mais c'est juste donner des indications pour aider les gens à mieux ressentir les choses en fait, tout simplement. S'ils n'ont aucune notion de ça, moi j'avais comme ça, je me suis aperçu. On est sur le terrain tout le temps, hein. Pour le coup. Certes, on lit des choses aussi parce qu'on essaye de faire progresser notre pratique.
Hein, et puis en pratique aussi, accessoirement.
Oui, oui.
En plus.
Accessoirement aussi. Mais ça peut être dangereux aussi.
Oui, aussi.
Ça s'applique à toi, mais ça ne peut pas à tout le monde.
C'est absolument vrai.
Ça peut être un problème du coaching, ça. Voilà.
Simon opine du chef, je précise.
Non, mais c'est vrai. Mais donc c'est vraiment aller dans ton sens, hein, Véronique, parce que c'est juste donner des indications, aider les gens à mieux ressentir les choses. Voilà, je ne peux pas dire plus simple, aider les gens à mieux ressentir les choses. Donc, moi, j'ai eu des gens sur le terrain qui je suis désolé, ils ne savaient pas respirer, c'est-à-dire qu'ils s'étouffaient en respirant, enfin, ils s'étouffaient en courant, tout simplement, parce que peut-être non, parce qu'il respirait que par le nez. Alors, c'est très bien de respirer par le nez, au passage, mais il le faisait à n'importe quelle allure, jusqu'à plus pouvoir ventiler normalement. Voilà, donc là, il a suffi d'expliquer un petit peu comment ils pouvaient faire peut-être un peu autrement. Le ressenti qu'ils avaient, c'était peut-être pas un ressenti normal. Et voilà, c'est rien de plus que ça. Aider les gens à mieux ressentir les choses. Voilà, et puis ensuite, c'est à eux de ressentir. Bien sûr, on va pas ressentir à leur place. On va pas leur dire c'est ça que tu dois ressentir absolument. Non, c'est pas du tout ça.
Bah, puisqu'on parle de cette notion de respiration nasale, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. On a entendu notamment Kylian ou je crois que c'était Arthur Joyeux-Bouillon qui en parlait aussi, qui disait qu'il servait un peu de ce repère, notamment en ultra, pour déterminer un petit peu sa zone d'intensité préférentielle dans le cadre d'un ultra, où il disait que à partir du moment où il était en capacité de respirer par le nez, il avait pour lui, il estimait qu'il était dans la bonne zone. Moi, ça, je vois quand même une grosse limite, c'est que encore une fois, comme le disait Véronique tout à l'heure, on est tous différents, ne serait-ce qu'anatomiquement. Il y a des gens qui ont des cloisons nasales déviées, il y a des gens qui ont des difficultés à respirer par le nez aussi. Donc toi, Simon, de ton côté, c'est des choses que tu entends, toi, notamment chez les athlètes de haut niveau?
Non, moi, c'est pas du tout des choses que j'utilise. Effectivement, ouais, je crois qu'Ian disait qu'il vérifiait qu'il arrivait à respirer 30 secondes que par l'année pour valider qu'il était en endurance. En soi, enfin, oui, pourquoi pas. Et si un athlète, si pour un athlète ça marche, moi, c'est OK. En fait, pour revenir à ce que disait Olivier, moi, je bosse pas spécialement sur la fréquence respiratoire, mais si un athlète, il nous dit qu'il respire mal, en fait, je vais essayer de lui trouver des solutions. Et en fait, dans tous les cas, ça va lui amener. Enfin, si ça lui amène un bien-être, bon, déjà c'est bien pour sa vie et c'est aussi bien pour la performance. Moi, en fait, je suis vachement dans cette vision-là. Oui, il y a le côté scientifique, il y a des trucs que je fais faire des athlètes. Honnêtement, je trouve ça, enfin, pas inutile, mais si, presque inutile. Et je pense que je pourrais vraiment m'en passer. Mais en fait, si derrière eux, ça leur apporte du confort, du bien-être, ils se sentent mieux dans leur tête, ça leur fait plaisir. Je pense que c'est déjà le but, parce que déjà moi je suis, enfin, si un athlète est plus heureux, ça me va encore mieux, et de manière, si l'athlète est plus heureux, pour moi il sera plus performant. Donc en fait, moi je suis, c'est vraiment plus ça l'idée que de me fermer, que de dire bah non, ça je ne veux surtout pas parce que c'est inutile, ou ouais, moi j'essaie d'être dans cette vision là ouais. Plus que la sensation. Si j'ai un athlète, enfin, s'il y a des athlètes qui ont vraiment du mal avec leurs sensations parce que ça les stresse vachement, moi ça m'arrive d'en avoir un ou deux, et en fait qui ont besoin d'avoir un facteur externe, bah, en fait, on est obligé de bosser, par exemple, avec l'AFC. C'est le seul moyen entre elles qu'on ait pour avoir tout le temps un facteur externe. Le but, après, c'est d'arriver à lui décorréler petit à petit au fil du temps et qu'il soit de plus en plus autonome et qu'il arrive à se détendre par rapport à ça. Mais, ouais, moi, je reste vachement dans ces lignes-là. Ouais.
Moi, j'aimerais bien, du coup, je fais encore appel à vous, Véronique, dans l'aspect, si vous donnez des, alors, je sais pas si vous accompagnez des athlètes aujourd'hui, je pense.
Alors moi effectivement je conseille des gens, je peux pas dire qui, mais des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, mais qui savent s'entraîner, mais qui ont besoin d'avoir, je dirais, une confirmation des repères, voilà, sur leur état de forme. Et j'ai aussi des gens qui marchent. J'ai aussi une application de marche, parce qu'à un moment donné, quand on ne sait pas respirer, il faut peut-être commencer à apprendre à marcher à différentes vitesses. Pour les gens vraiment qui
débutent
loin de leur corps, dans l'éducation physique, malheureusement, c'est des trucs qu'on n'apprend plus à l'école. Mmh. Donc déjà, pas avoir peur de remarcher, de marcher, d'avoir une phase de marche et de course. C'est-à-dire marcher, puis passer à la zone de course, réapprendre ça. À partir de quand on se met à courir, à partir de quand... on se met à hyperventiler, enfin voilà. Bon, ça, c'est vraiment le béaba. Puis on a la personne qui a un peu tout essayé, qui s'entraîne au seuil, qui fait les 10 fois, les 15 fois de 200 mètres, les 4 fois 1000 du jeudi, l'entraînement au seuil le dimanche ou le samedi, et puis qui ne progressent pas. Parce qu'en fait, ils n'ont plus de réserve de puissance et voilà, ils sont très endurants. Parce qu'ils résonnent en termes de vitesse moyenne. Hein. La vitesse sur marathon, c'est 75% de la VMA, donc 70% de la VMA, donc on se cale à une vitesse, je fais se prendre le mur dans la tête. Voilà, bon, j'ai plusieurs configurations.
Mais donc, l'idée, vous, quand vous accompagnez quelqu'un, c'est votre base, on l'a bien compris, c'est la sensation. Mais comment ça s'articule un petit peu, imaginons que vous préparez un athlète. Alors, on a bien compris que c'était pas le cas de vos accompagnements majoritairement, mais si vous accompagnez un athlète, comment vous procédez pour lui faire un plan d'entraînement versus ce mode de fonctionnement-là basé sur la sensation?
C'est très simple. On a un test qui s'appelle le test de Rabbit. Donc, je pense qu'il faut aller voir via training le site hein, pour comprendre, et surtout les publications, parce qu'encore une fois, moi, j'ai rien à vendre si ce n'est pouvoir amortir les frais de mon matériel et continuer à encadrer des thèses sur des sujets qui sont ceux de mon choix. Bon, moi, on voulait m'imposer de faire de la génétique de la performance, puisque l'université, on était au Génopôle. J'ai refusé, donc l'unité INSERM a été coupée. Et le prix de la liberté, ça a été de trouver mon autofinancement. Donc, je répète que j'ai parfois des gens qui me spolient sur Internet. Non, c'est pas mercantile, je suis fonctionnaire, service public à fond, et c'est d'aider les gens. Bon. Donc, comment je fais concrètement? Il y a une plateforme qui s'appelle Media Training. Les gens viennent, ils font un test de Rabbit. Même s'ils veulent pas d'entraînement, ils peuvent le faire. Ça va coûter 5 balles.
Globalement, grossièrement, de manière schématisée, ça ressemble à quoi ce test Rabbit du coup?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 10 minutes faciles, une minute de pause, un sprint, une minute facile, 5 minutes moyen, une minute de pause, 3 minutes à fond.
Okay.
Ouais, il fallait un peu bosser avant sur ce que je fais avant de. Je fais bien venir faire un podcast, mais non, c'est ça. Voilà. Donc, on a validé internationalement, c'est publié, etc. Bon. Les gens font le test, une fois. Alors, ils peuvent le faire à distance avec un cardio GPS, mais mieux en réel avec la VO2. On leur montre ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as cru faire facile, moyen, dur? Ah non, c'est ça, mon gars, ma fille. Tu as réellement fait ça. Ah ouais, bah, j'aurais pas cru. Les gens ont leur fréquence respiratoire. Ils ont tout sous les yeux. On leur fait même deviner cette courbe-là. Qu'est-ce que c'est, tu crois? Ah, c'est ma vitesse. Ah ouais, mais ça fait ça. Ouais, ben voilà, la respiration. Ah, mais finalement, ma vitesse varie, mais je suis toujours à la même fréquence cardiaque. Bah oui, mais c'est une adaptation. Toujours à la même fréquence respiratoire ou pas. On leur fait regarder ce qui se passe dans leur corps par rapport à ce qu'ils croyaient faire. Une fois qu'on a fait ça, après, on a un profil. En fait, on a un algo qui nous dit si la personne est meilleure en puissance, meilleure en tolérance à l'acidose, meilleure en cardio, meilleure en perception. Donc, il y a 4 possibilités, 4 fois 3 fois 2, donc il y a 24 profils. Et on a à peu près 500 séances qui vont être choisies en fonction du profil de la personne, de son niveau de VO2 max, estimé en digital, on estime sinon. Et après, on a un déroulé des séances, on donne 2 séances par semaine spécifiques, qui sont de semaine en semaine, recalculées en fonction de ce que la personne a fait. On analyse chaque séance déposée sur le site, donc avec le cardio GPS. Voilà. Donc c'est simple à la fois. Bon, il y a quand même 9 ans de développement, il y a 4 tests dessus, dont une de Matinfo. Voilà, on a un bel outil. Maintenant, il nous reste à faire l'API pour que ce soit une expérience utilisateur facile. Voilà, pour qu'on puisse donner ça à tout le monde gratuitement, de préférence, j'espère, très rapidement, d'avoir la possibilité de l'offrir. Voilà.
Très bien. Merci pour le repartage, sachant que c'est quand même pour les auditeurs que j'ai posé la question.
Oui, bien sûr, excuse-moi.
Pour en revenir un petit peu sur le dernier sujet, par rapport à l'autonomie des athlètes, c'est un sujet nous qui est important chez nous aussi. Toi, Simon, de ton côté, bon après là, tu es dans un cadre un peu différent de nous, mais après Olivier nous partagera un petit peu son point de vue aussi. Mais sur l'autonomie des athlètes, c'est quelque chose que toi tu mets en avant, c'est un objectif pour toi que ton athlète soit le plus autonome possible et en faisant en sorte qu'avec ses différents moyens de contrôle d'intensité, il puisse être le plus autonome possible.
Ouais, non, clairement, le but c'est quand même qu'il puisse être autonome parce que, enfin, à un moment, enfin, de manière qu'elle soit sur le moniteur de sa séance, le monitoring de sa séance, ou que, on va dire sur le fait s'ils se sentent fatigués d'enlever une série, de reporter l'entraînement au lendemain ou plein de choses comme ça, de toute manière, enfin, il y a tout à gagner que l'athlète soit autonome parce que à un moment on n'est pas avec lui et le but c'est pas que si jamais à un moment tu lui réponds pas, il soit paniqué quoi. Donc non, mon but c'est vraiment d'amener l'athlète vers l'autonomie et même d'avoir des fois des périodes où pour moi c'est moins indispensable, essayer même de donner de l'autonomie, on va dire sur le plan d'entraînement. pour en fait faire baisser la charge mentale. Et justement, là, je reviens à ce que disait Véronique, à juste en fait que l'athlète reprenne du plaisir à juste courir, apprenne les baskets et à le s'entraîner. Parce que pour moi, ça reste quand même des fondamentaux. Et il y a vraiment des périodes de l'année où j'essaye, après, les athlètes qui sont difficiles à convaincre de les laisser faire ça, mais parce que de toute manière, je regarde sur ce qu'ils font, il y a toujours un regard extérieur, mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est vraiment important qu'ils aient des périodes quasiment sans plan. Ouais.
Mmh. Olivier, de ton côté, sur l'autonomie des athlètes, c'est vraiment un objectif que tu souhaites atteindre par la mise en place de tous ces outils?
Bien sûr, pour moi, il y a deux objectifs hein, systématiquement. C'est le premier, c'est aider l'athlète à atteindre son objectif, quel que soit son objectif, ça c'est numéro un. Et le deux, alors c'est plus personnel, hein, mais c'est lui donner une autonomie complète. Parce que également, et là c'est plus personnel, je m'y retrouve après. Parce que c'est sympa. Au départ, un athlète débutant, tu vas devoir être très précis pour expliquer vraiment les choses, pourquoi, y compris pourquoi il fait ça. Alors il faut qu'il puisse comprendre, hein, bien sûr, mais pourquoi on fait tel type de séance, etc. Donc ça c'est au départ. Et après, au fur et à mesure que l'athlète prend de l'autonomie, t'as un discours avec lui qui change complètement. C'est plus, c'est un peu plus haut niveau, c'est plus des choses un peu plus macro, peut-être, tiens, voilà. Donc c'est aussi assez valorisant pour soi. Donc ouais, autonomie c'est super important. Et puis juste une dernière chose au niveau de la motivation de l'athlète. Mmh. Un athlète qui prend de l'autonomie, ça c'est un facteur de motivation supplémentaire en plus. Mmh. Voilà, il sera plus en maîtrise de ce qu'il fait. Simon parlait de charge mentale, c'est peut-être une charge mentale un petit peu moindre. Même si le coach reste là pour en cas de souci, voilà, pour expliquer des choses, peut-être un peu de voilà des situations. Peut-être un peu différentes, qui sortent de l'ordinaire, et voilà, on est toujours là, mais l'athlète a plus de motivation, et je pense que c'est un plus.
Très clair. Moi, de mon point de vue, à titre perso-pro, j'ai envie de dire que c'est des outils, et je dis souvent aux personnes que j'accompagne que, effectivement, il n'y a pas de vérité vraie, que ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour par moment jugé d'une intensité et puis après c'est aussi ce qui est attendu par les personnes qu'on suit, c'est-à-dire ils sont aussi en attente de quelque chose d'assez concret dans le cadre de leur accompagnement et c'est pour ça que ces différents outils qu'on utilise que ce soit la sensation ou même parfois la PMA la puissance etc, effectivement ça peut être remis en question, mais c'est plein de petits outils qui peuvent mis bout à bout essayer aussi de faire prendre conscience aussi aux personnes qu'on accompagne dans quelle zone d'intensité ils sont. C'est mon point de vue. Après ça effectivement ça peut paraître un peu à l'ancienne, mais voilà, moi je pense que c'est cette méthode là est de mon point de vue assez fonctionne assez bien. Véronique, je vous laisse le mot de la fin pour clôturer sur le sujet de quoi se base-t-on pour préparer pour s'entraîner.
Non mais je veux pas avoir le mot de la fin, je pense que on est tous là pour faire la même chose, hein. Mm-hmm. J'espère que les gens ont envie de courir.
C'est clair.
C'est tellement magique. Bon, le message que je voudrais dire, c'est que le corps humain est fantastique et ce qu'on perd en force, en puissance avec l'âge, on gagne en expérience et justement, on affine nos sensations avec l'âge. Donc, à tous ceux qui démarrent la course à pied après 50 ans, dites-vous bien que si vous travaillez vos sensations et vous allez, je dirais que à la limite, les personnes plus âgées font plus attention à ça, presque. Parce que ils peuvent pas faire les fous. Voilà, ils ont moins de réserve de puissance, donc ils vont être plus fins dans la distinction de leur zone, finalement, parce que leur profil est moins grande. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on le rattrape de l'autre. C'est la sagesse de l'âge. Mmh. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on a besoin de souffrir pour progresser. On a juste besoin de travailler dans différentes gammes, hein. C'est comme en musique. Hein. J'ai le plaisir de faire du violoncelle et il faut explorer toutes les gammes, aller dans les aigus, dans le grave. Mais pourquoi souffrir cette notion-là, no pain, no gain, j'en ai un peu marre, c'est un peu trop américain. Et nous, en France, on est plutôt dans la jouissance et le plaisir.
Le romantisme. Bon, c'est parfait. Ouais. Mais ouais. Message passé, Véronique. En tout cas, c'était un vrai plaisir, un vrai honneur de vous avoir au micro. Je pense qu'on a, voilà, on a confronté nos différents points de vue. On a échangé, effectivement.
Déjà, excusez mon impatience parfois parce que
non, c'est pas grave.
Ça fait 50 ans que je rame, que je parle et rame, et que j'entends encore les vieux repères, tout ça. Voilà, je me dis bon. Mais je vois, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde est d'accord pour travailler la sensation. Voilà. Mmh. Après, les chemins pour y arriver sont différents, mais on est tous dans la même perspective. Et le trail est juste magique pour ça.
C'est clair, c'est clair.
Ouais, la montagne.
Olivier, je te laisse clôturer. Enfin, je te laisse de finir.
Moi, je n'ai rien à ajouter.
Rien à ajouter.
Je dis Véronique. Voilà, c'était parfait pour conclure cette session. Super intéressante. Merci, vraiment merci à tous.
Ben, merci à vous. Simon, petit dernier mot.
Non, rien de spécial non plus. Mais prendre, je rejoins juste Véronique sur le fait que, effectivement, je pense que le. Faut pas chercher de se faire le plus mal possible à chaque séance parce que, enfin, en tout cas, je pense pas d'où que c'est la meilleure voie pour progresser. Et je pense qu'il y a aucune étude qui prouve que si tu te fais, enfin, si tu vas 1% plus vite ou 2% plus vite sur ta séance, tu progresses plus. Et à mon avis, c'est même plutôt inversement. Donc, ça, moi, s'il y a bien un mot de la fin, c'est, enfin, faut mieux monitorer même, en fait, toutes les séances au seuil, VMA, etc. Et il faut toujours au minimum pouvoir faire, des reps en plus et avoir un petit peu de marge sur l'allure. Okay. Je suis persuadé que sur le long terme, les gains de progression sont bien plus importants.
Très bien. Merci à tous les trois. C'était passionnant. Et puis, merci encore Véronique et Simon et Olivier d'avoir accordé du temps au Let's Try podcast. Et puis, n'hésitez pas, les auditrices et les auditeurs, à nous faire vos retours sur des questions, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter. Merci beaucoup à tous les trois et puis à très vite.
Super.
Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange en compagnie de Véronique Billa, Simon Gosselin et Olivier Jean, que je remercie énormément pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également, si vous souhaitez, rejoindre la communauté des soutiens participatifs Patreon sur Patreon, patreon.com/letstrylepodcast. Vous savez, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir un petit retour sur investissement, sur toute l'énergie qui est mise à votre disposition. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis en plus, vous intégrerez une magnifique communauté de trailers passionnés et pas que. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut !